Vous écoutez On lit pour vous.
Près d'un agresseur sur trois serait mineur. Un dossier de Léa Cartier, paru le 27 janvier 2025 dans la presse. Au Québec, les adolescents commettent plus d'infractions sexuelles que tout autre groupe d'âge. À eux seuls, ils représentent près du tiers des agresseurs présumés. Qui sont-ils et surtout, que fait-on pour éviter qu'ils récidivent? Agressée à 16 ans par un garçon qu'elle fréquentait. À son réveil, Mathilde, prénom fictif, n'avait aucun souvenir du party de la veille. Il s'était passé quelque chose. L'adolescente s'en doutait, mais ne se souvenait de rien. Rien pour expliquer ce qu'elle faisait étendue là, à moitié déshabillée. L'histoire remonte à un peu plus d'un an. Mathilde avait 16 ans. Comme celui qu'elle soupçonne de l'avoir agressé ce soir-là, un garçon qu'elle fréquentait depuis un moment. Avec le temps, le souvenir de l'agression lui est revenu petit à petit. Parfois, c'était des images, des sons, des sensations, confie la jeune femme, marquant une pause entre chaque mot. Vers la fin de la soirée, le garçon l'a menée dans une pièce et s'est mis à l'embrasser. L'adolescente, qui était dans un état d'ébriété avancé, peinait à garder les yeux ouverts. « Je me rappelle que j'étais incapable de bouger, de parler, de faire quoi que ce soit », raconte-t-elle. Le reste demeure flou, ce qui la trouble encore plus. Je me suis réveillée dans une pièce avec plein de gens. Mais je n'avais plus de vêtements. Mes bobettes étaient à l'autre bout de la pièce. C'est dégueulasse, mais j'avais du gluant dans les mains, poursuit-elle en baissant les yeux, gênée. Le cas de Mathilde est loin d'être isolé. Au Québec, les adolescents commettent plus d'infractions sexuelles que les adultes, toutes proportions gardées. Elles sont en hausse dans les dernières années. En 2022, près du tiers des auteurs présumés d'infractions sexuelles étaient d'âge mineur. La même année, pas moins de 730 adolescents ont fait l'objet d'une plainte d'agression sexuelle au Québec, soit plus que tout autre groupe d'âge, selon des données du ministère de la Sécurité publique. Sur 100 000 habitants, le taux d'agresseurs présumés était 4 fois supérieur chez les 12 à 17 ans que chez les 18 ans et plus. L'écart est encore plus grand pour l'ensemble des infractions sexuelles, qui incluent, entre autres, le leurre et la distribution non consensuelle d'images intimes. Le taux d'agresseurs présumés était 5 fois supérieur chez les mineurs que chez les adultes. Les taux de victimisation sont également les plus élevés chez les adolescents, loin devant les adultes. Vanessa Rémy-Soriol, chargée de projet et formatrice à la Fondation Marie-Vincent, qui vient en aide aux jeunes victimes de violences sexuelles, nous l'affirme. Dans les médias, on va surtout voir les cas commis par des adultes. Mais dans la réalité, ce sont les jeunes entre eux qui présentent le plus de comportements de violence sexuelle. Les comportements de violence sexuelle ont d'ailleurs augmenté au cours des dernières années. Entre 2021 et 2024, le nombre de dossiers ouverts par la Sûreté du Québec concernant des infractions sexuelles commises entre mineurs est passé de 1423 à 1550, une hausse de près de 9 %. En ce qui concerne les agressions sexuelles, leur nombre a bondi de 16 %. Facteur à considérer. De manière générale, les adolescents sont plus susceptibles d'adopter des comportements délinquants que les adultes, souligne la criminologue et professeure titulaire au département de psychoéducation et de travail social de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Julie Carpentier. Elle l'explique en énumérant certaines caractéristiques typiques de l'adolescence, comme l'immaturité, la recherche de sensations fortes, la prise de risque, l'impulsivité et la difficulté à gérer ses pulsions et ses émotions, ainsi qu'à anticiper les conséquences de ses actes. Cela dit, d'autres facteurs pourraient contribuer au taux élevé d'infraction sexuelle chez les jeunes. L'intervenante Vanessa Rémy-Souriol pense d'abord à la proximité. Dans une école, ils peuvent être 2000 élèves qui sont ensemble de 8h à 16h, du lundi au vendredi. Avoir accès à autant de personnes, ça peut avoir un impact, illustre-t-elle. À cet âge, de nombreux adolescents vivent leur première expérience sexuelle. Or, tous n'en ont pas encore pleinement intégré les normes, même si elles sont enseignées à l'école. Par exemple, si deux personnes ont consommé à l'excès de l'alcool dans une fête, est-ce qu'elles peuvent consentir à une relation sexuelle? La capacité de naviguer dans ces relations-là, parfois, ce n'est pas évident pour les jeunes, affirme Mme Rémy-Souriol. Vous écoutez, près d'un agresseur sur trois serait mineur, un dossier de Léa Carrier, paru le 27 janvier 2025 dans la presse. Elle cite également l'influence des pères, qui peut pousser les jeunes à faire des gestes ou accepter des comportements violents pour se conformer au groupe. Réhabilitation possible. Mais il y a une lueur d'espoir. La grande majorité des jeunes agresseurs ne récidivent pas. Et le risque baisse encore plus s'ils sont accompagnés par des services d'aide. Procureure au Bureau des affaires de la jeunesse, Naomi Côté-Laporte travaille principalement sur des dossiers de nature sexuelle. En jeunesse, on vise des objectifs un peu différents, soit la responsabilisation de l'adolescent. On veut vraiment qu'il comprenne pourquoi il a posé ces gestes, quels en sont les impacts, explique-t-elle. Selon l'avocate, les infractions sexuelles commises par les jeunes se divisent essentiellement en deux catégories, les cas intrafamiliaux, entre frères et une sœur, entre cousins, et les cas extrafamiliaux, entre adolescents en couple, entre fréquentations, entre amis ou connaissances. Lorsqu'un adolescent est accusé d'une infraction de nature sexuelle, un processus judiciaire similaire à celui des adultes est enclenché. Il diffère toutefois sur un point en particulier, les types de peines. Pour favoriser leur réhabilitation, on privilégie les thérapies, les ateliers de sensibilisation ou encore la médiation. Plus rarement, on impose aux jeunes agresseurs une mise sous garde en centre jeunesse. C'est une peine possible, mais ce n'est pas la majorité de nos dossiers qui vont vers cela, note l'avocate. Une honte qui reste. Quelques jours après son agression, Mathilde s'est confiée à une employée de son école qui a rapporté l'événement à la police et au directeur de la protection de la jeunesse, conformément à l'obligation de signalement. Une enquêtrice a contacté Mathilde, qui a finalement décidé de ne pas porter plainte, de peur que l'histoire s'ébruite, et de punir, d'une certaine manière, un innocent. Toute ma colère, dit Mathilde, je la dirigeais contre moi-même. Je me tenais responsable, même si, au fond, je savais que ce n'était pas ma faute. La jeune femme de 18 ans reconnaît aujourd'hui qu'elle n'avait rien à se reprocher, même si la honte, elle, reste. Dans la douche, tu frottes et tu as l'impression que ça ne partira jamais. L'impression d'être sale, laisse-t-elle tomber. Sensibiliser pour réhabiliter. Même avant d'embrasser une fille, je vais lui demander son consentement, atteste Émile, prénom fictif. S'il juge bon de faire cette précision, c'est qu'il en connaît peu qui prendraient la même précaution. Mes chums s'en foutent, souligne crûment le jeune homme, calé dans le fauteuil de son salon. L'importance du consentement Émile l'a réalisé en complétant, il y a plusieurs années, le programme pour les adolescents ayant commis des infractions sexuelles, PACIS. Élaboré il y a près de 20 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le PACIS est depuis déployé dans la grande majorité des régions du Québec. Son objectif, réduire le risque de récidive chez les jeunes contrevenants. À 13 ans, Émile a agressé sa sœur aînée, qui a une déficience intellectuelle. Ses parents, qui l'ont surpris durant l'acte, ont signalé la situation à la Direction de la protection de la jeunesse. Considérant son jeune âge, les intervenants impliqués dans son dossier ont recommandé qu'il participe au programme. Pour Émile, aujourd'hui âgé de 25 ans, l'expérience s'est avérée une prise de conscience dont il voit encore l'impact des années plus tard. « Ça a amélioré ma façon de voir les filles, » dit-il. « Je suis pas mal plus respectueux des filles que plusieurs gars de notre génération. » Criminologue et chargé de cours, retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi, François Gagnon a spécialisé sa pratique auprès des jeunes auteurs d'agressions sexuelles. Lorsqu'il a développé le programme PACIS, avec l'aide de la travailleuse sociale José Bouchard, au début des années 2000, le modèle d'intervention proposé aux adolescents était dérivé de celui pour les adultes. Le discours n'était pas adapté, remarque-t-il. Chez les jeunes, la vraie déviance sexuelle est plus rare et la réhabilitation est plus facile. Amener un ado à changer ses comportements, c'est moins difficile que pour un adulte qui est installé là-dedans depuis de nombreuses années, selon le criminologue François Gagnon. Vous écoutez, près d'un agresseur sur trois serait mineur, un dossier de Léa Cartier, paru le 27 janvier 2025, dans la presse. Fondé sur l'intervention de groupe, le PACIS consiste en 16 à 18 rencontres hebdomadaires d'une durée d'environ 2 heures, animées par 2 intervenants. Les cohortes sont composées de 6 garçons, les filles n'étant pas assez nombreuses pour former un groupe, tous âgés de 12 à 17 ans. Offert en ligne, le cahier d'activité porte notamment sur l'éducation aux notions de consentement et la sensibilisation aux torts causés. On croit beaucoup à l'approche de groupe. On pense que c'est de cette façon que les jeunes font le plus d'apprentissage et qu'ils ont un lieu pour parler de ce qu'ils ont fait, souligne Caroline Gervais, travailleuse sociale déléguée à la jeunesse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui anime des rencontres du programme PACIS. De taper les fesses d'une fille à créer de faux comptes sur les réseaux sociaux pour leurrer des garçons et leur demander des photos de leur pénis, le spectre des infractions commises par les participants est large. Mais tous peuvent cheminer, et beaucoup le font. C'est clair qu'il y a une différence marquée entre ce que les jeunes sont capables de reconnaître au début et à la fin du programme, soutient Madame Gervais. La travailleuse sociale l'entend même de parents dont l'enfant a suivi le programme. Il y a un avant et un après PACIS, dit-elle. Besoin d'aide. Lorsqu'Éric a surpris son fils Émile en train d'agresser sa sœur, il n'a pas attendu avant d'aviser les autorités. Au début, c'est un choc. Ça n'est pas évident. Tu te demandes ce que le monde va penser, ce que le monde va dire, raconte l'homme rencontré au centre commercial où il travaille, à Saguenay. Mais il savait que leur fils avait besoin d'aide, et eux aussi. Les mois suivants, Éric a accompagné son fils à toutes ses rencontres du PACIS. Il a même participé à quelques-unes d'entre elles, une recommandation du programme. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui pose des actions dans le but de purement faire du mal, estime Mathilde, qui a été agressée sexuellement à 16 ans. Je ne pense pas que le garçon qui m'a agressé ait fait ça et que dans sa tête, il se disait « Je suis en train de violer quelqu'un », poursuit-elle. Que pense Mathilde d'un programme du genre? Elle croit qu'il peut être positif à condition que l'agresseur soit capable de reconnaître ses torts. S'il y en a qui sont ouverts à changer, je pense que ça peut aider, estime la jeune femme. Oui, ça fonctionne. Récemment, Eric a participé une deuxième fois au programme PACIS, cette fois avec un adolescent qu'il hébergeait en famille d'accueil. Encore aujourd'hui, le jeune le remercie de l'avoir accompagné dans ce processus. Oui, ça fonctionne. Oui, les jeunes apprennent à travers ça. Ça les conscientise énormément, affirme le père de famille. La preuve, les deux garçons n'ont commis aucune récidive et mènent aujourd'hui une vie normale de jeunes adultes. Mettre un jeune en prison, s'il n'y a rien d'autre autour, il ne comprendra pas. Il va recommencer, estime Eric. C'était « Près d'un agresseur sur trois serait mineur », un dossier de Léa Cartier, paru le 27 janvier 2025, dans la presse.
Des passeurs, des petits chars et des chapeaux. Un texte de Judith Lachapelle, paru le 25 janvier 2025 dans la presse. Le concours annuel de la commission de toponymie a publié cette semaine la liste des 12 noms de lieux nouvellement baptisés qui ont retenu l'attention de l'organisme. Nous avons demandé à deux passionnés d'histoire et de langue de choisir leur propre coup de cœur parmi cette liste. Parc des Passeurs, Lévis, Chaudière-Appalaches. Sur la rive sud du fleuve, en face de Québec, un parc a été baptisé en l'honneur des canotiers qui faisaient, jadis, la navette entre les deux rives. Citation, ça rappelle une ancienne réalité. Fin de citation, dit Wim Remisen, professeur de sociolinguistique et d'histoire de la langue au département des arts, langues et littérature de l'Université de Sherbrooke. Citation, avant l'arrivée des bateaux à vapeur, des canots faisaient la liaison entre les deux villes. Ils étaient pilotés par des passeurs. Fin de citation. Aujourd'hui, s'amuse l'historien et photographe Pierre Laoud, citation, cette activité traditionnelle est devenue un sport extrême. Fin de citation. Le chroniqueur Paul Lefranc, pseudonyme d'Étienne Blanchard, dans l'article « Autour de la langue française », La Presse, 1er mai 1920, écrivait, citation, quittant un de nos beaux villages canadiens où j'avais passé d'agréables heures, une fois que le passeur m'eut déposé sur l'autre rive du fleuve, je me dirigeais vers la gare. Fin de citation. Baie des Convois, Saint-André de Kamouraska, Bas-Saint-Laurent. Il s'agit d'une toute petite baie adossée à l'archipel du Pot-à-l'Eau-de-Vie, juste en face de Rivière-du-Loup. Citation. Je savais qu'il y avait eu des convois de marine marchande sur le fleuve durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, dit Pierre Laoud. Mais je ne savais pas que ça remontait aux guerres napoléoniennes. Fin de citation. Selon la commission de toponymie, c'est en effet dans ce secteur que des navires marchands, les cales remplies de bois destinées au commerce, se réunissaient durant les guerres napoléoniennes, 1799-1815 et la guerre de 1812, 1812-1815, avant de traverser l'Atlantique en convoi. Parc du Tour du Chapeau, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Montréal. Ce toponyme à saveur sportive a de quoi faire sourire. Pour faire le tour du parc du Tour du Chapeau, il faut emprunter la rue Yvette-Brion, du nom d'une dame qui n'était pas joueuse de hockey, mais plutôt la plus grande modiste et chapelière du pays. C'est un autre chapelier montréalais bien connu, Henri Henry, qui a popularisé l'expression « tour du chapeau »,« hat trick », en offrant un chapeau à tout hockeyeur comptant 3 buts dans une même partie disputée au Forum de Montréal. Chemin en premier, Bonaventure, Gaspésie. Tant M. Laoud que M. Remisen ont été sous le charme de ce chemin qui portera bientôt son nom dans la municipalité de Bonaventure, en Gaspésie. Citation, Un beau clin d'œil au français acadien. Fin de citation, dit Wim Remesen. Citation. La Gaspésie était une terre d'accueil extraordinaire. Fin de citation, rappelle Pierre Laoude, citant les Belges, les Écossais, les Acadiens qui se mêlaient aux Micmacs et aux Français. La commission indique que le terme « en premier », en un seul mot, qui tire manifestement son origine de « en premier », signifie « autrefois, jadis, au commencement ». Wim Remesen rapporte que, dans une entrevue menée dans les années 1970 par un abbé passionné de l'histoire des îles de la Madeleine, on entend un vieux pêcheur s'exclamer, citation, « Ah, il faisait plus beau en premier qu'à cette heure. On avait plus de beau temps. » Fin de citation. Place des Petits Chars, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Montréal. Il y avait les trains, ces gros chars. Il y avait les tramways, les petits chars. Bien avant que le métro émerge et que les autobus fassent une pause à la station Henri-Bourassa, dans le nord de l'île de Montréal, les petits chars empruntaient une boucle de retournement précisément à cet endroit. En choisissant cette expression au lieu du mot « tramway », les gens de l'époque, citation, « évitaient un emprunt à l'anglais », fin de citation, remarque Wim Remesen. Mais le mot était également condamné par certains puristes, rappelle le spécialiste, dont l'auteur du dictionnaire de nos fautes contre la langue française en 1896. Citation, « on dit « monter dans une voiture du tramway » ou « dans un tramway » et non « monter dans les petits chars ». Fin de citation. Tant pis pour Raoul Rinfret, l'auteur du dit dictionnaire. 130 ans plus tard, les petits chars auront droit à leur place bien à eux. Les typiques, la moulange et la marée. Cet autre toponyme figure sur la liste « Coup de cœur 2025 » retenue par la commission de toponymie. Au Saguenay, le lac des Typiques, TI-PICS, dans les Monts-Valins, reprend le surnom donné aux membres du 433e escadron de l'aviation royale canadienne, les Typiques, qui s'entraînaient dans le secteur où le lac se trouve. Le fleuve a aussi inspiré l'appellation du sentier de la forêt marine, aux Éboulements, et la bibliothèque de la Marie des Livres, Notre-Dame du Portage. La rue de la Moulange, Joliette, désigne une machine servant à moudre le grain pour en faire de la farine ou de la moulée. Le chemin du Pas d'eau, Saint-Antonin, Bas-Saint-Laurent, comme son nom l'indique, est le plus souvent à sec, malgré la proximité d'un ancien canal de contrôle des inondations. Le parc de Mai, Sainte-Marie, Beauce, rappelle une coutume de la Nouvelle-France où un mât était érigé au mois de mai. Citation, « devant la demeure d'un personnage auquel l'on souhaite rendre hommage ». Fin de citation. Enfin, la promenade de l'Ardoise, Liry, souligne la présence de gisements de cette pierre noire dans le secteur. C'était « Des passeurs, des petits chars et des chapeaux », un texte de Judith Lachapelle, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse.
Héros de notre histoire. Peter Flinch, un texte de Serge Fizette, paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Né en 1920 à Leipzig, en Allemagne, Peter Flinch est issu d'une famille aisée, grands amateurs d'art et de peinture, qui sera ruiné après la guerre. Artilleur dans l'aviation, il revient alors dans sa ville natale occupée par les Soviétiques et obligé de gagner sa vie travaille comme décorateur de théâtre. Peindre des portraits monumentaux de Marx et autres héros du Panthéon communiste, note Jean-François Larose, marquera le début de l'apprentissage de son métier. Après s'être établi à Berlin où il poursuit ses réalisations scéniques tout en s'adonnant à l'illustration et à la caricature dans diverses publications, il se retrouve à Munich en 1951 à dessiner des étalages publicitaires pour la compagnie Air France. Il traverse ensuite l'Atlantique et rejoint son ami Heino Haydn, danseur et chorégraphe, et fonde avec lui le Vancouver Ballet. Pour les spectacles de la troupe, il créera décors et costumes et organisera des tournées. Puis, il décroche un emploi à Montréal à la nouvelle société Radio-Canada comme créateur de décors pour la télévision. Parallèlement à sa carrière professionnelle, étalée sur 30 ans, il poursuit une démarche artistique en dessin, peinture et sculpture. Privilégiant la figuration, il explore la représentation du corps humain, particulièrement le corps masculin. Inspiré par l'expressionnisme allemand, il est considéré comme l'un des pionniers de l'art gay au Québec. Et comme il arrive souvent chez les créateurs qui innovent, les premières initiatives sont difficiles, de sorte que son art du nu masculin n'a trouvé aucun écho avant la fin des années 70. Les gens pensaient que c'était de la pornographie, se souvient-il. De nombreux spécialistes ont reconnu mon talent, mais ils m'ont tous demandé de peindre d'autres sujets, des fleurs, des couchers de soleil dans les Laurentides ou des chaises de jardin. Ça ne m'intéressait pas. Les hommes qu'ils représentent, confie-t-il, je les rencontre au YMCA ou dans des bars. Je choisis le plus souvent des athlètes plutôt que des modèles professionnels, des gars qui sont à l'aise dans leur corps et bougent de façon naturelle. En 1989, Peter Flinch conçoit 5 dessins pour le recueil de poésie « Puis » de Jean Chapdelaine Gagnon, publié aux éditions du Norrois. Ses œuvres illustrent également le livre « Male Nude Now » de David Leddick, dont le lancement aura lieu à la librairie Landrugine en 2001. Entre-temps, il a commencé à montrer sa production dans divers musées et galeries à travers le monde, notamment la Rob Gallery à Amsterdam et la galerie Janssen de Berlin où ses œuvres sont reproduites dans l'ouvrage « Der Mann in der Kunst »,« Men's Art Gallery ». En 1999-2000, il est invité par l'Écomusée du Fiermonde et présente l'exposition « Monde de Montréal », alors qu'une rétrospective lui est consacrée au Schwolles Museum à Berlin. Il exposera également à New York à la Leslie Lohman Gay Art Foundation. Décédé à Montréal le 30 mars 2010, à l'âge de 89 ans, Peter Flinch laisse un héritage imposant que retrace Ross Higgins dans son ouvrage « Peter Flinch, The Body in Question ». Afin de le mieux connaître, on peut aussi s'adresser aux Archives gays du Québec, qui, outre le fonds Peter Flinch, possède une partie de la correspondance de l'artiste ainsi que des photographies et l'un de ses dessins dans le fonds Chris Huizenga, 1976-2008. C'était « Héros de notre histoire, Peter Flinch », un texte de Serge Fizette paru le 27 janvier 2025 dans le magazine Fugue.